Philippe Jaroussky interprétait un extrait d'Hyménée O de Georg Friedrich Händel, un disque Erato que je vous conseille vivement pour ces fêtes de Noël. Händel est un compositeur connu, mais on constate que des pans de son œuvre, comme celle d'ailleurs de Vivaldi, sont encore à défricher. Il est heureux, Mathieu, que des musiciens comme Philippe Jaroussky s'investissent dans la musicologie. Est-ce que leurs travaux aident le musicologue Mathieu Schneider ?
Ben oui, bien sûr, le travail que maintenant les musiciens font, particulièrement les musiciens baroques, mais pas les seuls, parce que ça concerne aussi le 19e siècle, tout ce qui est fait autour du Palazzetto Bruzzane et d'Alexandre Radvicki et de tous ces consorts, extrêmement important, parce que je crois que les interprètes ont pris conscience que la partition, c'était pas quelque chose de donné d'avance, et que c'était en fait une conquête. C'était une conquête technique, mais c'était aussi une conquête en termes d'interprétation, savoir qu'est-ce que ça signifie, ces signes. Et depuis qu'on se pose ces questions-là, les interprètes sont posés vraiment depuis les années 80 avec le mouvement baroque, et ben ils font eux aussi un travail de musicologue, c'est-à-dire qu'ils vont chercher quelle édition, quelle version, ils vont même chercher de nouvelles partitions. Donc en fait, ils travaillent dans le même sillage que les musicologues. Et pour moi, il n'y a pas de clivage entre le travail que fait un Jaroussky et le travail que font les musicologues. Et d'ailleurs, je crois ici en Alsace, le mouvement a été initié il y a longtemps déjà par Martin Gester et Jean-Luc, notamment son frère, qui ils ont fait un travail remarquable sur la musique baroque en exhumant des trésors tous les jours et en faisant un vrai travail sur l'interprétation. Et je crois que Jean-Luc Gester a été musicologue, Martin l'est dans l'âme tout autant que son frère l'était. Donc je crois que voilà, et pour moi il n'y a pas de clivage, et on est dans le même bateau, et on fait tous en sorte que la connaissance sur la musique progresse et qu'on puisse proposer aux auditeurs une interprétation peut-être la plus fidèle, la plus authentique qui soit, parce que c'est maintenant la manière dont on conçoit la musique. Il y a longtemps, on la concevait pas comme ça, on avait une partition, on l'interprétait. Maintenant, on essaye d'être fidèle aux intentions du compositeur, et pour ça, il faut faire un travail historique. Alors que ce soit l'interprète ou que ce soit le musicologue qui le fasse, j'allais dire peu importe, l'essentiel c'est le résultat.
Alors vous êtes plutôt spécialisé dans la musique romantique, la musique de Richard Wagner, la musique de Gustav Mahler, de Richard Strauss. Est-ce qu'il y a encore des travaux à effectuer dans ce domaine ? Est-ce qu'il y a une recherche d'authenticité à essayer de trouver ou de retrouver ?
Oui, je crois que en fait, on s'est beaucoup posé la question de l'authenticité pour des époques qui étaient lointaines et qui étaient notamment des époques antérieures à la naissance de l'orchestre symphonique. Où effectivement, l'organologie n'était pas les mêmes, c'était pas les mêmes instruments, c'était pas les mêmes techniques. Et on a pensé naïvement que voilà, une fois que l'orchestre moderne était entre guillemets inventé, alors c'est difficile de savoir quand au fond ça se stabilise, parce que ça prend une cinquantaine d'années entre 1830 et la fin du siècle, quasiment 70 ans. Et on a pensé qu'à partir de ce moment-là, ben, c'était simple, il suffit de mettre un orchestre philharmonique et que nécessairement ben, l'œuvre va être authentique puisque c'est comme ça qu'elle a été interprétée. Or, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça dans tout le 19e siècle, c'est-à-dire que les pratiques se sont superposées. Et on a donc des chefs qui viennent de la tradition baroque qui maintenant commencent à regarder un petit peu ce qui se passe au 19e siècle. J'ai un enregistrement de Minkowski du Vaisseau fantôme. C'est assez intéressant. Je n'ai pas dit que c'était forcément ma version préférée, mais c'est intéressant de voir comment eux lisent la partition en la relisant à l'envers, c'est-à-dire à partir de la tradition du 18e siècle, des techniques de jeu et des techniques d'interprétation, et des questions d'attaque, de rythme, etc. Et on sent qu'effectivement, il y a une patte sonore qui est différente. Alors, c'est très difficile de savoir si, quand Wagner a donné la première fois le Vaisseau fantôme, il l'a joué comme Minkowski, ou il le jouait plutôt à la version Toscanini ou autre. Donc, c'est très difficile parce que, là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. On a des critiques, on a des traités d'instrumentation, on a des documents. Est-ce qu'on arrivera un jour à être parfaitement authentique, je sais pas, mais je crois qu'il y a un gros travail à faire. Alors donc là je parlais du milieu du 19e, mais ça va effectivement jusqu'au début du 20e. Après je pense que la question d'authenticité elle se pose complètement différemment. On a des disques, à partir du moment où on a des enregistrements on sait comment ça sonnait, et donc là il suffit de se référer à ces documents là et la question est, et alors elle devient plus profonde, est-ce qu'on veut faire un plagiat au 21e siècle, des interprétations qu'on faisait au début du 20e, et ça repose indirectement la question d'authenticité, c'est-à-dire est-ce que du coup on est légitime à vouloir faire sonner aujourd'hui Mozart comme il sonnait à l'époque, parce que si Mozart vivait aujourd'hui, certainement qu'il, déjà il n'écrirait pas la même musique, mais s'il écrivait cette musique-là, il utiliserait peut-être des instruments modernes et il n'aurait certainement pas envie d'être sur des boyaux. Donc voilà, la question elle est fondamentale, elle traverse la musicologie, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse juste, il y a des partis pris. Il faut respecter chacun des partis et il faut voir ce que ça fait, enfin le sens que ça produit à la fois par rapport à l'œuvre et par rapport aux auditeurs que nous sommes aujourd'hui. Je crois que c'est ça la seule légitimité.
En tout cas, c'est un débat très intéressant, mais on va parler aussi de votre actualité, Mathieu. Vous êtes l'un des commissaires de l'exposition Strasbourg 1880-1930 Laboratoire d'Europe, une exposition qui est toujours en cours.
Oui, c'est jusqu'au 26 février, donc j'invite toutes celles et tous ceux qui, par ces temps un peu gris, ne savent pas trop quoi faire, à se rendre au Palais Rohan, à la Galerie Heights, au rez-de-chaussée à gauche en entrant, pour voir cette exposition. Alors aujourd'hui, c'est une date un petit peu importante d'ailleurs, parce que on est à mi-parcours, enfin ça fait 3 mois qu'elle est exposée, et on va changer un petit peu l'accrochage, parce qu'il y a certaines œuvres qui ne supportent pas d'être exposées plus de 3 mois pour des raisons de conservation. C'est notamment le cas de la magnifique maquette d'Aïda, qui nous a été prêtée par la Bibliothèque Nationale de France, et la bibliothèque va venir aujourd'hui de Paris la récupérer. Alors quittant ces studios, j'irai au Palais Rohan ces jours de fermeture, on va changer un peu l'accrochage. Il y a aussi 2-3 tableaux qu'on est obligé de rendre là pour des questions de durée de prêt, parce que c'est pas possible de les avoir plus longtemps, mais on en met d'autres à la place. Donc ce qui veut dire que ceux qui sont déjà venus peuvent revenir, parce qu'il y a à peu près 5-6 œuvres qui sont nouvelles, et donc on sera bien sûr ravis de les accueillir.
En cette période de Noël, Strasbourg accueille beaucoup de visiteurs de France et d'ailleurs, d'autres régions françaises. Est-ce qu'ils viennent voir l'expo ? Est-ce que vous avez une idée ou pas ?
Alors je dois dire que j'y suis pas non plus tous les jours, voilà, parce qu'on a aussi chacun nos activités. Je crois que les statistiques sont plutôt bonnes. On avait 2500-3000 visiteurs à la fin du mois dernier. Alors c'était avant le marché de Noël, donc je pense que là on n'a pas encore eu les statistiques pour décembre. Je pense que c'est bon signe. Moi quand je viens, je vois qu'il y a toujours du monde en exposition. C'est pas non plus la foule, mais c'est très bien, parce que ça veut dire que ceux qui veulent y aller ont le temps et l'espace pour profiter des œuvres qui sont exposées. Je crois qu'il y a effectivement quelques visiteurs de passage, des touristes qui, voilà, peut-être entre deux vins chauds et surtout entre deux averses, décident de se mettre à l'abri au Palais Rohan. Bon, honnêtement, j'ai pas plus d'informations que ça, mais j'espère bien sûr qu'on attire aussi le public étranger. C'est ce que me disaient les musées de la ville, c'est qu'habituellement en décembre, effectivement, il y a quand même un pic de fréquentation dans les musées d'une manière générale, et qui est lié au marché de Noël. Donc je pense que ce pic se répercute aussi sur l'exposition, mais on regardera les statistiques quand elles seront disponibles.
Très bien, on rappelle la date de fin de cette expo.
26 février.
Très bien. Mathieu, on va bien sûr parler un peu de Noël, de l'esprit de Noël, mais pour se mettre dans l'ambiance, bien voici un chant de Noël, Weihnachten de Humperdinck, chanté par Madame Elisabeth Schwarzkopf, accompagnée par le Philharmonia Orchestra, dirigé par Sir Charles Mackeras, avec la complicité des Ambrosian Singers.
Jedes Erd
aujourd'hui. Voilà. Elisabeth Schwarzkopf chantait Weihnachten, Dumperdink, Sir Charles Mackeras l'accompagnait à la tête du Philharmonia Orchestra. Et des Ambrosian Singers, un disque Warner Classic qui va nous accompagner d'ailleurs tout au long de cette semaine. Mathieu, parlons de Noël. Alors, quel souvenir de Noël avez-vous ?
Moi, les souvenirs de Noël, c'est Noël en famille avec mes parents et mes grands-parents. Et ça, c'est en principe le 24 décembre. Et dans la famille, la tradition, c'est qu'on chante. Donc, ça n'a rien à voir peut-être avec le fait que j'ai ensuite choisi de travailler dans la musique. Mais depuis qu'on était petit, voilà, c'était la tradition. Alors moi, je me souviens que quand j'ai commencé au conservatoire, j'étais en horaire aménagé, c'était tout petit, et je faisais de la guitare. Et donc ma prof de guitare, qui avait à cœur, je crois, de me motiver à jouer de l'instrument, m'avait fait acheter un recueil de chants de Noël arrangés pour la guitare. Des chants de Noël allemands, c'était une bonne... C'est une bonne Alsacienne, donc elle a fait ce fond traditionnel allemand. D'ailleurs, je dois dire que chez nous, on chante les chants essentiellement en allemand à la maison. Je ne sais pas d'où ça vient, des grands-pères, enfin, des grands-parents, etc. Et c'est la tradition dans la famille. Et donc, c'est vrai que quand j'étais petit, eh bien, elle m'a appris, donc ma prof de guitare, à accompagner un certain nombre de chants de Noël. Et donc, je me souviens, on a des photos, quand j'avais 6-7 ans avec ma petite guitare, parce qu'on n'avait pas encore le grand format à l'époque, vu la taille que j'avais, accompagnant péniblement hein, Stillenacht et Ihr Kinderlein kommt, O Tannenbaum, etc. Donc, et c'est une tradition qui s'est perpétuée parce qu'actuellement, eh bien, je tiens toujours la guitare le soir de Noël. Et c'est bien pratique parce que la guitare, ça se transporte partout. Donc on fait ça chez mes parents, chez ma tante ou ailleurs. Une guitare, c'est facilement mis dans un coffre de voiture ou c'est facilement transporté à la main. Et donc voilà, c'est toujours la tradition. Et donc là, c'était un petit peu l'afferment ce week-end pour savoir quel chant, parce que chaque année, j'essaye de changer un petit peu le répertoire. Alors il y a les traditionnels et puis il y en a d'autres qu'on essaye de trouver. Ça, c'est un peu le musicologue qui cherche à gauche, à droite de nouveaux chants de Noël. Donc voilà, donc c'est pour moi, Noël, en fait, je pense que... C'est une fête, c'est d'abord une fête familiale, c'est-à-dire que chez nous, Noël, on n'envisage pas de le fêter autrement. Et c'est le moment où on se retrouve ensemble et c'est le seul moment de l'année, en fait, où on chante ensemble dans la famille. Ça, c'est un moment très fort et donc on essaye de le transmettre. Donc mes neveux, mes nièces, voilà, ils sont encore un peu petits. Alors bon, j'essaye de faire un peu plus de chant en français parce que l'allemand est une barrière supplémentaire. Donc voilà, mais ça, c'est pour nous, Noël en famille, c'est comme ça.
Vous faites répéter avant ou...
Alors c'est vrai qu'idéalement il faudrait faire ça, vous avez bien raison, sauf que en fait déjà réunir la famille est déjà quelquefois un exploit parce qu'on est, chacun occupé à gauche à droite, donc non, on n'a pas de répétition, mais en même temps on n'est pas du tout dans la logique d'une performance, c'est-à-dire qu'on fait ça pour nous, et s'il y en a un qui chante faux, ça n'a aucune importance, l'essentiel c'est qu'on chante ensemble, et je crois que ça c'est le plaisir fondamental de la musique, c'est de partager un moment... et d'être vraiment au sens propre du terme sur la même longueur d'onde.
La veillée de Noël, est-ce que vous attendez la messe de minuit ou pas ?
Alors, quand on était petit, il y avait, alors on était petit, on n'allait pas à la messe de minuit, mais on était dans une paroisse où ils faisaient une messe anticipée vers 5h ou 6h pour les enfants. Donc on allait traditionnellement à la messe là. Et mais ça nous est arrivé quelques fois, enfin mes parents allaient de toute façon à la messe de minuit, quand on était plus grand, on les accompagnait à la messe de minuit, et c'est donc pardon. La paroisse où j'étais, qui était la paroisse Sainte-Madeleine, nous avions la chance, puisque je parlais avant de Martin et de Jean-Luc Gester, de les avoir l'un ou l'autre à la tribune de l'orgue. Donc voilà, quand on allait à la grand-messe de minuit, c'était grand orgue, et on finissait par minuit chrétien. Donc on reprenait après les chants qui, quelquefois, avaient été déjà chantés dans la famille à la veillée de Noël, donc vers 7-8 heures.
Les échanges de cadeaux, ça se faisait aussi à Noël ou...
Ah ben oui, bien sûr. Oui. Donc, quand j'étais petit, j'attendais que ça, bien sûr. Oui. Même si je dois dire, j'attendais d'avoir les cadeaux, mais comment dire, il n'y a pas de cadeau qui m'ait marqué plus que ça. Mais c'est vrai que oui, bien sûr, c'était le 24, on attendait les cadeaux. Mais alors, il y a toujours, pour moi, c'est toujours un peu un moment déceptif, c'est-à-dire que on attend très longtemps. Et puis ça dure un quart d'heure, et après c'est fini, il faut attendre 365 jours. Donc il y a une sorte de... En fait, le plus beau dans Noël, je crois, c'est la préparation. Enfin, moi, c'est ce que je préfère, c'est-à-dire le temps où bah, on va penser aux cadeaux qu'on va offrir, on va les faire, comme je dis, où je concocte ma playlist de Noël, pour parler en bon français, et je crois que c'est ces moments, c'est les plus importants, puis après le moment du partage, où on se retrouve tous ensemble, et ouais, ça c'est pour moi Noël, ça se passe comme ça.
Préparer le sapin.
Ah, le sapin, oui. Alors le sapin, donc je vois maintenant la tradition. Enfin, il y a plein de gens qui commencent à acheter leur sapin au premier dimanche de l'Avent et qui le décorent. Alors ça, c'est pas possible. Chez nous, c'est très tardif. Alors en principe, c'est dans la tradition en Alsace, c'est le 24 qu'on met le sapin, qu'on le décore. Bon, je dois dire que cette année, vu le calendrier, c'était un peu compliqué. Et d'autant plus que moi, je vais aller acheter mon sapin en forêt noire. Donc je vais dans une ferme au fin fond du Rheinstall, de l'autre côté derrière Oberkirch, chez une dame qui est tout à fait charmante, dont maintenant nous sommes des clients habituels, et qui d'ailleurs, je suis allé avant-hier, qui avait déjà réservé, enfin sachant qu'on a, se doutant qu'on allait venir, avait mis trois sapins de côté en disant « c'est ce qu'il vous faut, c'est la taille et la largeur qu'il vous faut ». Et donc, ce que j'adore, c'est le ramener, parce que alors, quand on le sort, comme il a été fraîchement coupé, ça, on a l'impression d'être en forêt pendant une semaine. Donc là, j'adore rentrer chez moi actuellement, parce que ça sent le sapin, mais dans le bon sens du terme.
Oui. une belle odeur. Est-ce que Mathieu croit encore au Père Noël ?
J'aimerais beaucoup y croire. J'aimerais beaucoup y croire. Je crois que j'ai très tôt su qu'il n'y avait pas de Père Noël. Et je crois que je suis quelqu'un d'assez cartésien, donc j'avais très vite compris que comme il fallait faire la liste aux parents et que finalement la liste arrivait, c'était que voilà, il s'affairait quand même pendant longtemps et qu'il y avait des pièces dans lesquelles on ne devait pas rentrer. Enfin bon, j'avais très vite compris le truc. Mais je me suis vraiment voilé la face pendant longtemps. Et donc j'ai vraiment voulu y croire, c'est pour ça que je dis, je crois que j'aimerais toujours croire au Père Noël. Et peut-être pas seulement au Père Noël, mais à l'idée que bah, y a un moment de l'année où on se fait une surprise, on se fait plaisir. Et ça pour moi c'est un peu ça le Père Noël, c'est ce temps du partage, ce temps de la surprise, et je crois de l'amour, parce qu'on se rend compte que voilà, ben, la famille... Enfin, je parle vraiment là au niveau de la famille, parce que chez nous, c'est familial. Quelquefois, on les voit pas assez souvent. Enfin, même s'ils sont pas loin, on se dit, mais ils sont là. Et c'est quand la famille finit par... Alors, elle s'élargit d'un côté par le bas et elle se rétrécit par le haut. Et c'est quand elle se rétrécit par le haut qu'on se rend compte que, c'est très important d'avoir une famille. Et ce moment de partage et ces moments qu'on a ensemble, ils sont très précieux. Et moi, j'ai perdu il y a quelques jours mon grand-père. Et donc, c'est vrai que lui chantait avec ardeur malgré sa voix qui devenait un peu chevrotante. Mais sa mémoire, toujours très, 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 très fidèle. Il y a 96 ans, l'année dernière, il chantait encore avec les arrière-petits-enfants. Donc ça, c'était un beau symbole. Cette année, il ne sera plus avec nous, mais il sera avec nous par la pensée. Mm-hmm. Puisqu'on chantera les chants qu'il chantait quand on était petit.
Une manière de se remémorer les bons souvenirs. Mathieu, je vous ai demandé de venir avec un disque. Alors, on écoute un premier extrait, lequel ?
Oui, alors j'ai longtemps hésité, parce que bien sûr la musique j'en écoute un peu de tout type, et pas seulement de la musique classique, et pas seulement non plus de la musique du 19e siècle, ou de Mahler ou de Strauss, contrairement à ce que certains peuvent croire, donc j'ai des goûts beaucoup plus éclectiques que ça, et donc j'avais un peu hésité à ramener de la musique traditionnelle, et finalement j'ai choisi ce disque d'Anne-Sophie Fonauteur, qui est une chanteuse qu'on aime beaucoup à la maison. Et elle a fait un disque de Noël. Alors c'est un peu, comment dire, c'est un peu déstructuré, dans le sens où ce sont des arrangements assez étonnants. Il y a certaines versions d'ailleurs, certains arrangements que j'aime pas trop. Elle a fait un Minuit chrétien, donc le fameux Minuit chrétien d'Adolphe Adam, qui ressemble pas à grand chose à mon avis. Alors c'est joliment chanté, mais bon, l'accompagnement est vraiment... au synthé, tout ça, ça me plaît pas trop. Par contre, il y a quelques très très belles pièces là-dessus, sur cet album, et c'est celle que j'ai choisie. Donc je propose d'entendre un traditionnel allemand qu'on chante d'ailleurs de temps en temps en famille, puisque j'ai dit qu'il y avait une rotation, donc c'est pas tous les ans, c'est le Jesulainzart, Donc c'est un chant traditionnel du XVIIe siècle qu'elle fait dans un très joli arrangement, vous allez entendre, avec une voix très douce, et je trouve que ça colle très très bien à l'image que je me fais de Noël, c'est-à-dire pas un Noël démonstratif, pas les chants hurlés à tue-tête dans les rues et dans les marchés, c'est pas ça, mais un Noël intimiste qu'on passe chez soi, au coin du feu ou auprès du sapin, et c'est ce que j'ai voulu partager avec les auditeurs d'Accent 4.
Eh bien on écoute Anne-Sophie Auteur. Voilà, Mathieu, nous écoutions Anne-Sophie von Otter interpréter le titre.
Ah, interprétant au Jesulainzart du XVIIe siècle.
Je préfère que vous vous risquiez que moi, mon allemand n'étant pas excellent, et je risque d'avoir des commentaires désobligeants. Questionnaire de Proust, Mathieu.
Ça me fait peur. Ouais. Ça fait peur.
J'aime bien. Quelle est votre œuvre symphonique préférée ou œuvre de musique de chambre?
Alors, je crois que mon œuvre symphonique préférée, ça va réjouir un certain nombre d'auditeurs qui ont déjà réservé leur place pour ce concert, c'est la 7e de Mahler. Je crois que... En fait, je ne sais pas si je dois justifier mon choix ou pas, mais ce qui m'a vraiment complètement fasciné dans cette œuvre, la première fois que j'ai entendu, c'est ce solo de cor ténor au début. Je crois que j'en ai toujours des frissons, j'ai eu la première fois que j'ai entendu cette symphonie. Et voilà, c'est un moment qui me marque, et donc je pense que c'est vraiment la symphonique de Mahler que je préfère. C'est difficile parce que quand on est comme moi, qu'on fréquente quand même beaucoup ce répertoire, on finit par être au fond un peu piégé par le regard du... Enfin, en tout cas, biaisé. Le goût est quelquefois biaisé par le regard du musicologue qui dit « Mais non, mais ça, c'est intéressant. » Donc, il faut faire la part des choses entre ce qui est intéressant et ce qu'on aime. Donc là, je crois que c'est vraiment affectif.
Entre le cœur et la raison.
Entre le cœur et la raison. Et ça, c'est le cœur. Et le cœur, c'est le solo de cor ténor au début de la 7e.
Très bien. Et on précise que Hartmut Henschen dirigera cette symphonie à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg prochainement, et vous serez donc invité à présenter cette symphonie lors d'une conférence. Quel est votre chef d'orchestre préféré?
Alors là, vous venez de prononcer son nom, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est effectivement lui qui viendra jouer la 7e, mais je crois qu'actuellement mon chef préféré c'est Henschen. Et j'en ai eu vraiment l'intime conviction quand je l'ai entendu cet été à Bayreuth dans Parsifal, où je pense que ça a été pour moi là aussi une expérience bouleversante. Pourtant je connais Parsifal, j'ai entendu plein d'enregistrements disques, je l'ai entendu plusieurs fois à la scène aussi, et Henschen a fait vraiment un travail remarquable, à la fois un travail la musicologique puisqu'il est revenu à l'édition originale et aux indications originales de Wagner pour la création de l'œuvre en 1882 à Bayreuth, mais surtout je crois que il a fait ça avec un sens du cérémoniel, c'était une musique qui était à la fois solennelle et en même temps pas pompeuse, qui était lente mais qui avançait. Enfin, il y a quelque chose, et à chaque fois que je l'entends, je suis assez bouleversé par ce sens très très impressionnant de la forme. Boulez a une lecture très analytique, par exemple, de la musique. Henschen, c'est beaucoup plus ressenti, mais en même temps, tout est là. Et donc pour moi, c'est vraiment un des plus grands. Et que j'oppose à celui que, de l'autre côté, je n'aime pas du tout, dans le même répertoire, c'est Thielemann, que je trouve beaucoup trop suffisant par rapport à la musique, et qui n'a pas l'humilité de se mettre dedans et qui le regarde du dessus. Henschen, il est dedans. Et donc je me réjouis beaucoup d'entendre la 7e de Mahler, qui est mon œuvre préférée, par Henschen, qui est, je pense actuellement, l'un de mes chefs d'orchestre préférés.
Quelle œuvre musicale auriez-vous aimé composer ?
Alors, pense que si... Là c'est pareil, si j'avais dû... D'ailleurs, là, je file un peu la métaphore wagnérienne, mais je pense que si vraiment j'avais pu composer la tétralogie, si j'en avais eu les moyens techniques, intellectuels, artistiques, esthétiques, je pense que ça doit être l'aventure la plus extraordinaire qui soit, parce que arriver à se plonger dans une histoire comme ça, écrire 16 heures de musique, donner une cohérence à tout ça, un sens, je pense que ce qui m'aurait plu, c'est de vivre cette expérience d'immersion, en fait, que l'auditeur vit déjà. Mais j'imagine le compositeur, donc il a quand même vécu 25 ans avec cette œuvre, même s'il y a eu une interruption assez longue entre la fin du deuxième acte de Siegfried et puis le reste de Siegfried, puis le crépuscule des dieux. Mais c'est quand même on est à un moment habité par une œuvre. Et je crois que, alors au fond c'est un peu banal de dire ça, parce que je suppose que tout compositeur est habité par son œuvre le temps qu'il l'écrive. Mais là il y a une inscription dans un temps long, dans un espace aussi tout à fait particulier, puisque Wagner s'est inventé ce nouvel espace avec les leitmotifs, la polyphonie orchestrale. Et je crois que j'aurais vraiment aimé vivre cette immersion. Alors je la vis modestement en tant qu'auditeur, je la vis un petit peu plus dans la douleur en tant que musicologue, parce que c'est quand même vachement complexe comme œuvre. Mais voilà, si j'avais pu composer, je pense que j'aurais choisi ça.
Et quelle œuvre littéraire auriez-vous aimé écrire ?
Ah ben, je suis un amateur de la forme longue, et si j'avais voulu écrire quelque chose, et ça c'est mon roman préféré, j'aurais voulu écrire La Montagne Magique de Thomas Mann. Là, ça c'est vraiment pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que, bon, c'est 7 ans dans ce sanatorium, mais 7 ans où le temps semble par moments s'arrêter, et où on est là dans des réflexions, dans un paysage qui à la fois évolue et est complètement figé, puisqu'on est dans ces Alpes suisses, prisonniers quasiment de ce sanatorium, donc il y a à la fois l'idée de l'enfermement et de la liberté, et au fond d'une réflexion sur la société, en la regardant, alors cette fois-ci un peu à la Tillemann, en la regardant de haut, ou de loin, ou en se mettant à l'écart, et je crois que j'aimerais bien un jour vivre cette expérience de l'écart, en se disant, moi je suis toujours dans l'action, c'est-à-dire mes journées, ça commence tôt le matin, il y a le conducteur qui est fait jusqu'au soir, et ça reprend le lendemain. Ça c'est plutôt l'activité du vice-président de l'université, et puis un peu le musicologue aussi, et je crois que dans La Montagne Magique, Thomas Mann a fait, un peu comme Wagner dans la tétralogie, à un moment ce pas de côté de sortir du monde, de sortir de soi, de regarder ça un peu de loin. Et je crois que j'aurais bien aimé vivre ce type d'expérience. Donc ça se rejoint peut-être un petit peu de dire... alors c'est un peu aussi la même estime, parce que Thomas Mann était un très grand lecteur, enfin très grand auditeur, mais aussi lecteur de Wagner. Donc ça se rejoint un peu. Alors vous dites finalement on n'en sort pas hein, de ce 19e siècle et ce début du 20e avec Mathieu Schneider, mais bon. C'est comme ça, on se refait pas.
Quel est le mot que vous détestez ?
Le mot que je déteste, effectivement, c'est plutôt une expression, c'est du coup. Parce que les gens, faites attention, cher Olivier, vous vous rendrez compte que vous trouverez difficilement un interlocuteur qui arrive à dire plus de deux phrases sans vous dire du coup. D'ailleurs, je dois dire que je suis moi-même de temps en temps, je tombe dans ce travers. Et en fait, c'est un ami allemand qui m'a rendu attentif à ça quand il a passé quelques semaines à Paris voilà, pour le boulot l'année dernière et qui me dit mais qu'est-ce que ça veut dire du coup. Alors je lui dis ben ça veut dire par conséquent, et en regardant le dictionnaire ça veut pas dire ça du tout en fait, du coup ça veut dire instantanément, tout à coup en fait, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'instantané, et maintenant on en a fait en fait une sorte de conjonction, de coordination, voulant dire parce que, car, etc. Et c'est aussi un tic de langage, alors je pense que c'est une mode, mais actuellement ça m'insupporte un peu. Donc le jour j'ai fait passer des euros à des étudiants et je me rendais compte que tous les deux mots il y avait du coup, donc ça faisait un peu beaucoup, du coup.
Voilà. Oui, je crois ne pas l'employer, mais bon.
C'est pas un reproche que vous faites, donc si vous êtes, cher Olivier, en dehors de ce travers qui semble frapper la société française, je vous en sais gré.
Dernière question, quel est votre juron préféré ?
Saperlipopette.
C'est joli.
Oui, je suis un peu old school. Mais là, c'est pareil. J'aime bien un petit peu ces vieilles, ces expressions d'antan, sapristi, saperlipopette, mazette, machin. C'est ça. Je trouve que ça a un charme. Mais je préfère des gens qui disent saperlipopette, des gens qui disent du coup. C'est un peu plus original. Et en plus, je trouve que d'un point de vue des sonorités, c'est quand même assez extraordinaire.
Mmh, tout à fait. On va se quitter avec un autre chant de Noël, Mathieu ?
Oui, on va se quitter avec... Alors, je continue sur ma lancée et je propose pour finir donc un chant toujours interprété par Anne-Sophie von Otter, mais cette fois-ci qui nous chante son Noël à elle. Et donc, c'est un traditionnel suédois. Alors, je veux dire, là, c'est la dernière parenthèse que j'ouvre, Olivier, si vous me le permettez. J'étais il y a 2 ans en Suède pour le boulot et là on nous a, c'était juste avant Noël et ils nous ont fait une magnifique, ils nous ont reçu avec une magnifique cérémonie de Noël où ils ont fait des traditionnels suédois et là j'étais très ému aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait de magnifiques traditions de Noël. Alors c'était tout un chœur et les filles venaient en portant des bougies sur la tête, donc la salle était plongée dans l'obscurité et on chantait ces chants de Noël dont ce très beau Kopangen. Alors excusez-moi pour la prononciation parce que autant pour l'allemand ça peut aller à peu près, pour le suédois je suis pas tout à fait sûr de mon coup. Et donc je vous propose d'écouter ce traditionnel suédois interprété par Anne-Sophie von Otter, donc Kopangen.
Et un disque Deutsche Grammophon.
Här i stillhet och tystnad nu när marken färgats vit från den trygga gamla kyrkan klingar sången ända hit. Jag har stannat Him.